Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci d'être à l'écoute du Forum du Studio Kalangou par le canal de 52 Radio et cette télévision partenaire dans tout le Niger. À Zender, vous écoutez cette émission sur les ondes de la radio Gaskia 89.5 MHz et la radio Chikura sur le 105.5 MHz. Le thème de notre forum d'aujourd'hui est « Dépravation des mœurs à Zender, mobile et solutions ». Au Niger, les jeunes filles et ou adolescentes âgées de moins de 20 ans constituent 61% de la population féminine selon l'INS en 2012 et 40% de celles de 15 à 19 ans ont déjà commencé leur vie procréative. À l'adolescence, les jeunes filles sont particulièrement sensibles à la pression des pères et peuvent, en jugeant de façon irrationnelle les avantages et les inconvénients de certains comportements, prendre des décisions mettant leur vie en danger. La dépravation des mœurs est un fléau qui touche une grande partie des jeunes, notamment les filles, qui sont souvent détournées par des adultes. Quels sont les facteurs individuels et contextuels qui expliquent la précocité sexuelle chez les adolescentes? Quels sont les risques encourus par les adolescentes ainsi que les répercussions sociales? Quelles solutions préconiser pour remédier au problème de dépravation des mœurs à Zender? Pour discuter, nous recevons Dr Abdelwahab Soumana, socio-anthropologue, enseignant-chercheur à l'Université André Salufou de Zender, Dr Sani Abdelmajid, inspecteur pédagogique régional, prédicateur en islam, et M. Nahandi Oumarou, chef service protection de l'enfant à la direction régionale de Zender. Je suis Mustapha Mamansani, correspondant du studio Kalangou à Zender pour l'animation de cette émission. Si on admet que les adolescents puissent avoir une vie sexuelle, elle est souvent jugée problématique à cause des risques encourus comme les infections sexuellement transmissibles, IST, les grossesses non désirées et les prohibitions sociales imposées aux adultes sont accrues chez les adolescentes, dit Chantou en 2009. Monsieur Nandi, je vais commencer par vous. Quelle est l'ampleur du phénomène de dépravation des mœurs à Zender?
C'est vrai. La dépravation des mœurs prend de l'ampleur ici à Zender, vu les conséquences, vu les formes des cas, n'est-ce pas, qu'on reçoit à la DRPFPE, parce que les abus sexuels sont les conséquences de cette dépravation des mœurs. Et si on note de 2020 à aujourd'hui, nous sommes à 654 cas d'abus sexuels qui ont été signalés et pris en charge au niveau de la Direction régionale de la promotion de la femme et protection de l'enfant. Et aussi, nous avons les comportements à risque. Les comportements à risque, ce sont des pratiques, habitudes et actions adoptées par les enfants qui vont vraiment les mettre en danger. Nous avons jusqu'à 1205 cas de 2020 à aujourd'hui. Dites-vous ces cas, c'est quand ça tourne vraiment mal que nos services sont contactés, n'est-ce pas, pour trouver une solution ou bien pour gérer la situation des cas de ces enfants-là. Donc, en un mot, dire vraiment, c'est des situations que nous vivons chaque jour, des enfants qui sont abusés, des enfants qu'on réfère au niveau de nos services de protection pour la prise en charge. Et aussi, si on, lors de nos sorties de rue, on voit vraiment des milieux, des endroits où les enfants s'adonnent à toutes sortes de pratiques, n'est-ce pas, qui ne cadrent pas avec la bonne conduite de notre société. Ces choses qui vivent ici à Zender et aussi à l'intérieur de la région dans certains départements où il y a même des communes, des villages qui sont réputés, n'est-ce pas, par leur comportement à caractère sexuel.
Oustaz, que dit l'islam au sujet de l'éducation des enfants?
L'islam, d'abord, nous donne le statut même de l'enfant. C'est quoi l'enfant? D'abord, l'islam nous dit, un, que l'enfant est un don. C'est un don qui n'est pas donné à n'importe qui. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit يَحَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَحَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورُ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكُرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ أَقِيمًا. Donc Allah donne à celui qui veut donc une commande des garçons et donne à l'autre une commande des filles et aussi à certains Allah subhanahu wa ta'ala mélange les filles et les garçons et Allah laisse certains même stériles sans enfant. Donc c'est un don. Allah subhanahu wa ta'ala va nous poser la question demain le jour de la résurrection par rapport donc à ces dépôts. C'est aussi un don, c'est aussi un dépôt d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah que Allah subhanahu wa ta'ala met dans vos mains. Et troisièmement, l'enfant aussi, c'est un ornement de la vie. Al mal wal banuna zinatul hayat dunya. Allah subhanahu wa ta'ala nous montre que les biens et les enfants constituent un ornement pour la vie d'ici-bas. Mais aussi, l'enfant peut être un ennemi. C'est là même qu'on va donc surtout s'apesantir. Où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, il y a parmi vos épouses, parmi vos enfants, donc ce n'est pas tout le monde, ce n'est pas tous les enfants, donc adouez-les comme des ennemis contre vous, fazarum, alors craignez-les. De l'autre côté, Allah subhanahu wa ta'ala nous montre aussi l'obligation d'éduquer les enfants qui constituent même la réponse donc à ces dépôts qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne, la confiance qu'Allah subhanahu wa ta'ala a placée donc à nous. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Ya ayyuha alladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran » Oh, vous qui avez crié, préservez-vous et aussi vos enfants de l'enfer. Ça nous montre que l'éducation est une obligation. Allah a dit aussi « Wamu wa amru ahlaka wa bisalati wastabir alayha » Il faut ordonner donc à ta famille la prière et aussi il faut persévérer, donc il faut endurer dans cet ordre. « Wa anzir ashirk » Et aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Kullukum ra'in » Vous êtes tous des responsables, vous êtes tous des bergers. « Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati » Et vous serez tous interrogés par rapport à cette bergerie.
Docteur Abdul Wahab, quelles sont les causes du phénomène de dépravation qu'on constate de plus en plus ici à Zinder notamment?
La dépravation des mœurs, telle que vous l'avez définie dans votre introduction, et je voudrais peut-être dire que ce serait bon de relativiser parce que vous avez parlé de l'hyper, enfin de la précocité, par exemple de la sexualité des adolescents ou des adolescentes. Sous-entendu ici, nos maris, j'espère que c'est de ça qu'on parle. Et même, enfin, ça peut toucher les mariés quand on parle de dépravation des mœurs. Il faut se dire que les mœurs, d'abord, quand on parle des mœurs, la société fait un classement d'un groupe d'actes, de propos, de certains comportements et qu'elle divise en deux grandes catégories. Il y a une catégorie qu'elle juge comme bonne mœurs et maintenant une deuxième catégorie qu'elle classe comme mauvaise mœurs ou lorsqu'on y entre, elle considère qu'on est en situation de dépravation des mœurs. Alors, qu'est-ce qui cause la dépravation des mœurs? Si on va dans le sens que vous avez utilisé, à savoir la question, par exemple, d'une sexualité dévergondée, une sexualité hors norme. Les chercheurs ont évoqué plusieurs causes. Un psychologue serait encore mieux pour donner davantage d'éclaircissements. Mais déjà, il faut se dire que la dépravation des mœurs est devenue un phénomène mondial. Et par conséquent, Zinder étant dans le monde, donc Zinder n'échappe pas à ce phénomène. Et il y a des choses qui existaient dans le temps qui ont disparu. Vous voyez par exemple dans le temps, les fonctions sexuelles ou les fonctions de plaisir des organes génitaux n'étaient pas aussi exposées dans le temps. Jusqu'à un certain âge, l'enfant sait que ces organes-là servaient juste à la résolution des problèmes naturels. Et donc, l'enfant ne se gênait pas, l'enfant n'était pas intéressé à ces fonctions-là, aux fonctions sexuelles. Deuxième chose, il y a aussi la terminologie. Dans le temps, la terminologie était très contrôlée dans la ville de Zinder. Quand vous prenez à Zinder, c'est difficile d'entendre certaines grossièretés qu'on prononce à travers les noms de ces organes-là. Mais aujourd'hui, bon, avec ce que nous avons dans les films, tout ce que les médias nous ont apporté, dans des films aujourd'hui, ça ne gêne personne, ça ne gêne pas ces jeunes-là de prononcer le nom de ces organes. Ce sont aussi des causes tacites auxquelles les gens ne pensent pas. Vous avez ces films-là qui véhiculent des images de la sexualité, des images de sexualité qui sont devenues incontrôlables aujourd'hui. Il y a un chercheur, Sébastien Boller, qui a dit qu'une enquête a permis de montrer que l'humanité consomme par an 136 milliards de vidéos pornographiques par an. Donc chaque individu, par calcul moyen, consomme 17 vidéos pornographiques par an. Donc là, c'est assez interpellateur. Et c'est des moments où personne ne les contrôle. En dehors de ça, il y avait les films Hausa que les gens avaient longtemps disculpés, mais qui, dans la réalité, sont pires que ces films, les films latino-américains que nous avons toujours accusés. Parce que dans les films Hausa, c'est un discours amoureux. Les langues sont malaxées pour pour que le discours soit amoureux, c'est des discours doux, c'est des discours qui font penser à l'érotisme, à la sexualité. Et c'est ce que les gens regardent nuit et jour. On pense que bon, c'est des films où ça c'est les trucs de la maison. Non. Donc ces films-là ont beaucoup contribué aussi à cela. Une autre cause, c'est que aujourd'hui l'école des Blancs a également contribué, parce que l'école des Blancs a carrément contredit ce que nos valeurs traditionnelles nous ont préconisé. Le cheikh est là pour le témoigner. Le prophète des musulmans a demandé que les deux sexes soient séparés déjà dans les lits. Et dans les milieux serrés, dès que les enfants atteignent un certain âge, à partir de 10 ans, il faut les séparer. Mais aujourd'hui, vous voyez que vous avez des classes dans lesquelles ils sont jusqu'à CM2. Il y a des classes dans lesquelles vous allez les trouver à 3. Ils sont assis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont totalement en contact les uns des autres. Et aujourd'hui, la philosophie de la scolarisation de la jeune fille, de la promotion de la femme, de cela fait en sorte que, bon, souvent on a besoin que, oui, partout il y a un garçon, il faut une fille, etc. Et il y en a même qui se permettent de mettre une fille entre deux garçons, etc. Donc, ce sont des causes que nous avons. Et un dernier élément que je vais citer, c'est que aujourd'hui les parents sont absents, et physiquement et moralement. Ils sont physiquement absents parce que le père quitte très tôt, la mère quitte très tôt. Et souvent, les enfants ils n'ont pas les mêmes heures de retour à la maison. L'enfant vient, il prend la télécommande, il fait ce qu'il veut, il regarde ce qu'il veut. Aujourd'hui, avec les smartphones, on regarde ce qu'on veut, on va où on veut, il n'y a personne pour le contrôler. Ça participe à cette dépravation des mœurs. Pour le cas précis de Zender, un autre phénomène qu'il faut relater, c'est que... il y a le phénomène de l'imitation. Comme on le dit, qu'est-ce qui se cache chez l'autre? Finalement, ils sont tentés de voir, parce qu'ils l'ont vu, il faut passer à l'acte. Il faut essayer. Il faut voir exactement qu'est-ce que, comme le dit un chercheur, dit la société cache des vérités aux enfants que les enfants ne sont pas prêts à accepter. Et donc, ils veulent concrètement dévoiler. Or, aujourd'hui, vous voyez... là, avec la raréfaction des mariages, les gens ils atteignent un certain niveau. Et bon, ils suivent à la télé la sexualité, ils consomment la sexualité à la télé, ils consomment la sexualité à la radio. Ou 13h30 dans beaucoup de radios, ce sont des musiques douces, des musiques sexy, érotiques, etc. C'est ce qu'on consomme à la radio, c'est ce qu'on consomme à la télé, c'est ce qu'on a partout sur l'internet, et voilà. Beaucoup n'ont pas la chance de passer à l'acte légalement. Et donc, peu importe, il y en a qui l'essaient par tous les moyens. Et donc ça contribue beaucoup.
Oustaz Abdelmajid, quelles sont, de votre point de vue, les causes du phénomène de dépravation qu'on constate chez les jeunes filles?
La principale cause, c'est l'éducation. Aujourd'hui, les parents ont démissionné, on peut dire certains parents ont démissionné catégoriquement de l'éducation. Souvent, on dit même en Hausa, « Yaran Zamani », les enfants d'aujourd'hui... Alors que la réalité qui a construit ces Yaran Zamani, ces enfants d'aujourd'hui, c'est nous les parents. Donc ça veut dire que c'est nous les parents des Zamani et non les enfants. Aujourd'hui, vous allez constater aussi une disparité ou bien une rivalité dans l'éducation entre souvent la maman et les papas. Le papa dit qu'il faut aller vers l'Est, la maman donc vient sourdine dire à l'enfant non. Ne l'écoute pas. Et souvent des querelles même devant les enfants. Ça, c'est un. Deuxièmement, il y a l'absence de modèles. Certains parents ne sont plus les modèles pour l'enfant. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit « Mami mauloudin illa wa yuladu ala al-fitra ». Donc, il n'y a pas un enfant qui naît dans le monde sans qu'il ne soit né dans sa nature. Donc, quelle est cette nature-là? C'est la nature d'adorer, d'accepter Allah subhanahu wa ta'ala, d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et le procédé, c'est autour des parents de les pervertir, soit de les rendre un juif ou un chrétien ou un paganiste. Donc, c'est le rôle des parents de changer l'enfant, mais sinon dans sa nature, telle qu'il est créé par Allah subhanahu wa ta'ala, telle qu'il est venu dans ce monde, donc l'enfant donc, est né donc, normal. On doit être des modèles. Parce que l'enfant, toujours, lui, il copie ce qu'il voit avec sa maman ou bien avec son papa. Si le papa filme, lui aussi, il va filmer. C'est comme ça. Troisième cause, il y a l'absence même de la loi des punitions et la loi des récompenses. Aujourd'hui, la punition est presque même bannie par la plupart des familles. On ne veut pas punir l'enfant parce qu'on l'aime, on les dorlote, on ne les punit pas. Et de l'autre côté aussi, il n'y a pas de récompense pour l'enfant qui fait du bien, un progrès dans son changement social. Il y a aussi l'erreur, même dans la correction des erreurs. Nous commettons souvent des erreurs quand on veut corriger les erreurs de nos enfants. Il y a aussi l'évolution de la technologie, que nous avons les smartphones, etc., Facebook, WhatsApp, etc., etc. Maintenant, qui est laissé à la merci des enfants, les parents ne contrôlent plus. Donc, il n'y a pas de différence d'âge. À tout moment, on peut acheter à un enfant pour dire qu'il annonce quand il va quitter l'école. Donc, il doit m'appeler. Alors qu'il y a des petits portables de 5 000, 3 000 qui ne comportent pas ces genres de jeux ou bien ces genres d'Internet. Et maintenant, je vous dis à Zander, quand vous voyez un groupe d'enfants réunis autour d'un portable, donc si vous hasardez de jeter un coup d'œil, vraiment vous allez retourner ce que vous allez voir. Et vous faites les tours, il y a des services où ils laissent l'Internet libre. Vous allez voir les enfants qui sont là, qui quittent souvent l'école. Il y a aussi la pauvreté. La pauvreté a un impact sur l'éducation, la déprivation des mères, surtout la jeune fille. Surtout le problème aussi des divorces. Aujourd'hui, les divorces, certes, c'est naturel, les divorces. Donc après les divorces, souvent les enfants sont laissés à leur maman, qui n'a plus le moyen de les prendre en charge. Souvent, les papas épousent une deuxième femme qui va venir maltraiter ses enfants. Donc, il y a beaucoup de facteurs qui poussent souvent les jeunes filles et même les jeunes garçons à la dépravation. Il y a aussi, il faut le dire, les systèmes, notre système scolaire, réellement. Et aujourd'hui, on a nommé le ministère de l'Éducation nationale, n'est-ce pas? Ce n'est pas fortuit. Quand on dit éducation, ça veut dire que l'école ne doit pas seulement instruire. Ce n'est pas ça seulement le rôle de l'école, ce n'est pas l'instruction, mais surtout aussi c'est l'éducation. Mais si le moteur de l'éducation, qui est l'enseignant, lui-même est mal éduqué, lui-même ne peut pas éduquer, ça alors je pense que cette mission vraiment a échoué. Et sans parler même de notre programme qui a besoin vraiment d'une révision. Il y a aussi la mauvaise compagnie. Souvent, vous allez voir un enfant donc ici d'une famille bien éduquée, mais après un certain niveau d'éducation, de scolarité, donc il se voit avec des enfants, des étudiants ou bien des élèves mal éduqués qui vont les pousser à des dépravations. Il y a aussi outrance dans la punition aussi. Et aussi le fait de trop choyer à outrance. Donc un enfant qu'on constate surtout, c'est ceux qui se disent civilisés, souvent, c'est ceux qui s'entregrent civilisés, l'enfant est trop choyé, l'argent, c'est pas un problème, souvent même les véhicules, donc on ne veut pas entendre, on ne peut pas dire non à un enfant.
Monsieur Nahandi, quelles sont les catégories de filles qui sont concernées par le phénomène de dépravation de mœurs ici à Zander?
Ok, donc merci. Oustaz a marché un peu sur la réponse à cette question. Quand même, moi, je catégorise ça en deux points. D'abord, il y a les filles qui sont issues de familles démunies. Oustaz l'a parlé, la pauvreté fait en sorte que les parents démissionnent des fois de l'éducation ou bien ils n'ont plus d'autorité sur les enfants parce qu'ils ne surviennent pas aux besoins de ces enfants une fois que ces enfants-là expriment un certain nombre de besoins. Donc, ils n'ont plus d'autorité. Auparavant, dans un quartier, c'est juste une seule personne. S'il dit « niette », tous les enfants du quartier vont suivre. Mais maintenant, tout le monde a démissionné. Chacun se concentre seulement sur son enfant. Et alors, Oustaz a parlé de la mauvaise compagnie. Même si tu éduques bien ton enfant, si la mauvaise compagnie est là, donc vous serez, votre enfant aussi va les suivre et va adopter les mauvais comportements et surtout faire la dépravation des mœurs. Aussi, nous, il y a le facteur âge. Par rapport à l'âge, les filles qui sont concernées par cette dépravation des mœurs va de 12 à 18 ans. On trouve beaucoup de filles, des fois dans des milieux vraiment pas adaptés, dans des milieux vraiment préjudiciables. qui adoptent un comportement avec des habillements vraiment qui ne sont pas décents et des fois où elles exposent même leur sexualité aux vues aussi de tout un chacun.
Quels sont les acteurs que vous menez pour stopper le phénomène?
Les actions que nous menons, tout d'abord notre ministère, donc à travers les services déconcentrés, à savoir la DRPE et les services départementaux, mettent en œuvre la politique nationale en matière de la protection de l'enfant qui repose sur trois axes, à savoir l'axe de la prévention, l'axe de la prise en charge et aussi l'axe de renforcement des systèmes. Donc en suivant cette politique, nous mettons en œuvre plusieurs programmes dans l'approche communautaire pour la protection de l'enfant qui touche plusieurs quartiers de la ville des Anders, où nous plaçons un animateur qui va siéger au sein de la communauté en train d'éduquer cette communauté sur le bienfait d'adopter des comportements qui visent à protéger les enfants de toute forme de violence, abus et exploitation. Donc on lutte activement contre cette dépravation des mères, parce que c'est ce qui conduit les enfants des fois à être victimes d'abus sexuels de la part des personnes adultes prématures qu'elles, ou bien de la part de leur père. Et aussi, nous avons une autre stratégie, les théâtres interactifs, n'est-ce pas, qu'on met en œuvre au niveau de ces quartiers défavorisés, où c'est les jeunes du quartier eux-mêmes qui vont monter des scénettes par rapport à ce genre de comportement-là. Et ces scénettes, interactivement avec la communauté, ils vont discuter où est le problème par rapport à pourquoi les enfants ne respectent pas les consignes de leurs parents, et c'est eux-mêmes qui deviennent acteurs du changement, et, n'est-ce pas, de comportement par rapport à cette dépravation des mœurs. Plusieurs quartiers des Anders sont concernés, les jeunes s'activent, ils trouvent un sujet vraiment d'actualité dans leur quartier, le problème que leur quartier vit, et maintenant ils vont transformer ça en scénette qu'ils vont discuter avec leur père pour essayer de trouver une situation. Il y a aussi les programmes Illumine et autres qui sont là, dispensés aussi, qui parlent toujours, n'est-ce pas, dans le sens à ce que les enfants, les parents, vraiment adoptent un comportement exemplaire, un comportement qui ne puisse pas mettre leurs enfants, n'est-ce pas, en danger. Parce que si aujourd'hui beaucoup de filles sont victimes d'abus sexuels, de viols, d'agressions, c'est parce que tout simplement cette dépravation des mœurs est d'actualité et que ça tente. Si, par exemple, la fille n'adopte pas un comportement décent, peut-être un adulte peut vraiment être excité et qu'au finish peut-être sur la main. On a vu plusieurs exemples ici à Zanter où des petites filles, n'est-ce pas, de CM2, des petites filles de 6e sont abusées, et, n'est-ce pas, par des personnes adultes. Et quand on rentre en profondeur, des fois on va voir que la fille là, c'est parce qu'elle-même, elle s'est laissée exposer. C'est pourquoi ces gens-là ont agi de cette manière barbare à son égard. En tout cas, aussi, nous faisons de la prise en charge. Une fois qu'on déniche des endroits, donc vraiment en collaboration avec tous les acteurs, parce que la protection des enfants est multi-acteurs. La justice est là, la police est là, la gendarmerie est là, les services sanitaires et autres sont tous là. Selon les prérogatives, on informe ou bien on réfère la situation au niveau de cet acteur-là. Maintenant, c'est des maisons même qu'ils choisissent, où ils vont faire soit des concours sur la sexualité, ou ça, quel est le couple le plus bon, ce genre de trucs. Donc on peut informer la police, comme nous on n'a pas d'armes, et ils agissent. On peut aussi saisir le juge des mineurs, peut-être s'il y a des trucs. Et nous sommes aussi organisés dans des comités, si on voit ce genre de phénomène-là, le comité se réunit, on prend une décision pour vraiment agir. Et ensuite il y a la prise en charge. Si on constate qu'un enfant ou bien les parents même qui viennent des fois pour nous dire « mon enfant, maintenant ses fréquentations, voilà, il fréquente tel, on a fait tout, il refuse. » Et nous, on rentre en contact avec cet enfant-là pour essayer de l'extraire de ce nouveau comportement qu'il a adopté, n'est-ce pas, pour faire en sorte, n'est-ce pas, qu'il adopte un comportement acceptable par ses parents et par la société.
Docteur Abdouhab, quelles sont les conséquences de ces phénomènes sur la société de manière générale et sur ces filles en particulier?
Je veux juste ajouter par rapport aux causes. Docteur Abdelmajid a évoqué le manque de modèles. C'est qu'il y a des recherches qui ont montré aussi qu'il y a des parents qui consomment qui font leur acte sexuel en présence des enfants. Et ça crée des soucis. Des fois, c'est la pauvreté, comme on l'a dit, parce que bon, ils sont dans une chambre salon, les enfants, les parents, tout le monde va là. Et bon, va donc il y a des soucis comme ça. Deuxième élément que je vais ajouter, c'est que les garde-fous qu'il y avait dans le temps n'existent plus. Quand vous venez dans nos sociétés africaines, il y avait un garde-fou et la question de la vérification de la virginité. Bon, lorsque l'islam est arrivé, surtout avec l'avènement de l'islam sunnite, du mouvement Izala, donc ce phénomène a été décrié tout à fait, tout naturellement, parce que c'est contraire à la prédication islamique. Mais c'est que, qu'est-ce qu'il faut mettre à la place? Donc c'est fini. Donc ça a été libéré, et donc c'est fini, puisque dans le temps, aucune fille n'osait contracter son premier mariage sans être vierge. Je vais juste dire un mot sur ce que Nahandi a dit par rapport à la catégorisation des filles. Il faut dire qu'il y a des filles non mariées, ça, la majorité. Il y a aussi des jeunes filles mariées qui sont abandonnées par leur mari, qui sont parties en exode. Pendant des mois, des années, ils ne sont pas là. Et il y a beaucoup de cette catégorie de filles qui tombent dans cette dépravation des mœurs. Il y a une troisième catégorie de filles qui ont été mariées, mais qui ont été mariées à des personnes très âgées. Et donc, il y a eu un déséquilibre au niveau de la satisfaction conjugale. La quatrième catégorie, c'est ce que l'autre a évoqué, Dr. Abdelmajid a évoqué, ce sont les divorcés. Il y a trop de divorcés. Beaucoup. Et les divorcés, c'est des petites, c'est des jeunes. Ce n'est pas des personnes âgées. La cinquième catégorie de filles, c'est celles-là qui sont parrainées par des proxénètes, des ouadachi, bon, qui sont des, on les appelle des fois des magagia, etc., qui sont là, bon, qui prennent ces filles-là pour des petites charges illusoires. Et maintenant, c'est elles-mêmes qui les plongent dans cette dépravation des mœurs. Donc, c'est elles qui récupèrent. C'est comme c'est des filles qu'elles mettent en location. Actuellement, moi, je sais qu'il y a une famille qui est en train de chercher sa fille, qui est tombée dans cette histoire. La dernière catégorie de filles, ce sont les élèves. Ce sont les élèves qui sont attaqués par les enseignants. La question du modèle. S'il faut dire que bon, on ne va pas exclure, dans tous les cas, la société l'a exclue de l'école. Parce qu'elle ne va pas venir enceinte à l'école. En tout cas, au collège, au lycée. C'est une conséquence directe. Normalement, il faut aussi exclure celui-là qui a commis l'acte. Il faut peut-être voir comment vous allez aller dans ce sens-là. D'abord, elle devient la risée de tout le monde, même si aujourd'hui, il faut se le dire, malheureusement, hein, ça commence à devenir un effet de mode. Ça ne dérange pas beaucoup, mais quand même, la première conscience sur l'éducation, on sait que l'éducation est dépravée. Ça, c'est un. Cette fille a perdu de valeur. Une troisième conséquence, c'est que la famille elle-même, elle est indexée. C'est aussi une autre conséquence. L'autre conséquence, c'est que ça donne lieu encore à d'autres qui vont essayer. C'est une des grandes conséquences. Quand la société est dépravée, quand on voit des filles qui tombent dans ces genres de situations, ça donne envie à d'autres d'essayer. Dans une société comme ça, on peut s'attendre à tout, sauf à ces trois choses que je vais citer. Un, il ne faut pas s'attendre à un développement de la science. On ne peut pas avoir des grands savants comme ça. Parce que déjà, son cursus est limité. Son cursus est limité. Et dans ce genre de situation, mais quel genre de mère faut-il attendre? Les savants musulmans ont toujours dit que le premier droit de l'enfant, c'est de lui choisir une mère. Voici quelqu'un, cette mère-là, qui par une fois, si elle tombe enceinte et si elle met cet enfant au monde, voici un enfant à qui déjà elle a sali l'histoire. On a créé déjà des cas sociaux dans la société. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes en ville. C'est pourquoi ce n'est pas très gênant. Mais dans les campagnes, quand on dit que cet enfant-là, il est conçu hors mariage, vous voyez, toute son histoire est souillée. Comment il va me trouver du mariage? Qui est-ce qu'il va épouser? Si c'est une fille, qui va l'épouser? Enfin, une autre conséquence, c'est que la société va avoir des enfants sans orientation. C'est des enfants sans orientation qu'on risque d'avoir. Et sans parler des conséquences psychologiques. Tous ceux qui s'adonnent à des actes de dépravation sexuelle, on dit qu'ils s'exposent à la démence, à la maladie d'Alzheimer, aux maladies d'oubli, aux maladies de tristesse, plus que celui qui consomme le hashish. Ça, c'est des recherches scientifiques. Celui qui s'adonne à des dépravations de mœurs, là, il est en train de préparer un mauvais avenir. Peut-être je vais emprunter la langue des marabouts pour dire que c'est dans ce sens que le Coran dit que c'est une quelle mauvaise destination cette zina-là. Donc là, vraiment, la société tire beaucoup de conséquences. Et voici que la plus grosse conséquence, c'est ce débat. Si ça n'existe pas, on n'en parle pas. Ça veut dire que c'est une réalité qui est là à Zinder et c'est une réalité qui est triste. C'est une grande conséquence. Je rappelle que Zinder est la première ville la plus religieuse au Niger. Si dans une ville comme Zinder, et on a ici le Sarki Musulmi, le prince des croyants, parce que c'est dans cette ville-là qui était d'ailleurs le premier royaume de l'espace, de cet espace qui a par la suite abrité le Niger, le premier royaume à se déclarer comme État islamique. L'éducation est pervertie jusqu'au niveau où tout le monde est d'accord qu'il y a la dépravation des mœurs. Les maisons en chantier, partir voir combien de fois la police est alertée et part prendre des filles qui sont dans ces maisons-là. C'est des gens ou leurs camarades élèves ou bien des externes de l'école qui les amènent dans ces maisons aux alentours des écoles. Et c'est devenu un code. Dès qu'on les bip, elles vont là-bas. C'est fini. Ça, c'est une mauvaise conséquence. Voilà des maisons qui sont déjà, qui ont goûté à la perversion avant même qu'on commence à y habiter.
Oustaz Abdelmajid, que préconise l'islam pour prévenir le phénomène de dépravation des mœurs qu'on constate?
L'islam, d'abord, comme il l'a dit le frère Abdelwahab, le premier droit de l'enfant, c'est de lui choisir la maman. Donc, choisir la maman, mais aussi choisir qui sera le papa de mes enfants, pour les femmes. Et pourquoi l'islam nous a dit « Yakumu khadriya ou deman » Donc, attention aux femmes jolies, mais ici, d'une famille sans éducation. Aujourd'hui, la plupart des garçons cherchent la beauté seulement. Ils ne regardent pas les côtés, donc, éducation de la fille. Et ils vont maintenant amener une femme, donc la maman de leurs enfants, donc qui va aussi, elle aussi, à son tour, inculquer la même l'éducation réussie à la maison. Choisir aussi le papa. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, donc, quelqu'un qui vient, donc, vous êtes d'accord avec sa religion, avec son comportement, voilà l'homme qu'il faut vraiment pour votre fille. C'est ça qu'on rate dès le début. Deuxièmement, prévenir cette perversion avec la continuité, la pérennité de l'éducation. La fille qu'on prend en mariage, ce n'est pas la fin de l'éducation. Elle a été éduquée par ses parents. Maintenant, à votre tour, le mari, de continuer l'éducation, pas seulement des futurs enfants, mais de cette fille-là dont vous avez la responsabilité. Aussi, la complémentarité entre l'homme et la femme dans l'éducation. Et aussi savoir l'impact de la démission de l'éducation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit « Kafa bil mar'i ithman an yudayya man ya'oul ». Il est suffisant comme péché fatal pour induire la personne dans l'enfer de démissionner ou bien de se désintéresser ou bien de délaisser sa famille dont il a la charge. Il est suffisant pour être dans l'enfer. Aujourd'hui, il faut se demander, lui peut-être il a beaucoup de chiffres, combien d'enfants après les divorces maintenant souffrent souvent ils ne mangent pas, ils quittent l'école à cause de cela, ils quittent l'école, pas seulement, même à 40 ans ils ne peuvent pas. Et c'est lui qui veut le paradis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, donc tout celui qui a été éprouvé par des filles, c'est-à-dire Allah te donne des filles, il y a une version même où on dit même une seule. Donc, si tu arrives à les entretenir bien, à les éduquer, à tenir une bonne compagnie, vous serez dans le paradis. Maintenant, qu'est-ce qu'on cherche? Nous voulons tous le paradis, n'est-ce pas? Voilà la clé du paradis. Donc, nous devrons conscientiser les parents donc, par rapport à cette situation. Donc, on a parlé de modèles, donner des bons modèles aux enfants. Donc, tout à l'heure, il a parlé de ce problème conjugal. Tout homme qui frappe sa femme devant ses enfants aura un impact sur l'éducation de ses enfants. Tout parent qui se permet de regarder, de visionner des films, quels que soient les films, donc il est en train de dire à son enfant que ça là c'est légal, vous aussi faites la même chose, ou bien allez même au-delà. Tout parent qui mentit à son enfant. Fais ceci, je vais te donner ceci. Elle est en train maintenant de détruire l'éducation de son enfant. Et aussi, il est important en islam d'éduquer l'enfant sur la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, si nous craignons Allah subhanahu wa ta'ala, je dis que même pas sur les plans éducation, je pense que partout, dans tous les domaines, nous allons réussir. Si je crains Allah subhanahu wa ta'ala, je n'ai pas besoin de me contrôler, je n'ai pas besoin que mon chef me contrôle, je ne détourne pas les deniers publics. Je ne vais pas mentir pour avoir quelque chose. Je vais préserver donc ma patrie si je crains Allah subhanahu wa ta'ala, parce que je sais que j'ai quelqu'un qui me contrôle, qui me voit à tout moment, pendant que mon chef, mon supérieur ne me voit pas, pendant que les chefs de l'État ne me voient pas, pendant que les ministres ne me voient pas. Donc, il faut donc commencer l'éducation par la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, sentir toujours la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Umar bin Salama a dit, donc, nous étions jeunes, nous avons toute notre promptitude, mais il dit, nous avons appris la foi avant le Coran. Donc, il faut montrer à l'enfant des eaux de vie, donc la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il faut continuer l'éducation. Ce n'est pas là, il ne faut pas lâcher comme c'est les Occidentaux, à partir de 18 ans, c'est fini. L'enfant est devenu, non, l'éducation continue. On a demandé à un savant, il a dit non, l'éducation continue des enfants, même après son mari, jusqu'à la mort. Donc la justice, l'égalité, l'équité entre les enfants. Et les choix de la macaranta, les choix de l'école. Dans quelle école dois-je inscrire mes enfants? Contrôler les enfants, contrôler l'utilisation de téléphone par les enfants, contrôler leur amitié, leur compagnie, et avoir une bonne relation aussi avec leur maman. Et enfin, et surtout aussi, invoquer Allah subhanahu wa ta'ala.
Docteur Abdelwahab, comment lutter contre l'imitation chez les jeunes filles, et que doivent faire les parents et les autorités pour pallier au phénomène?
En réalité, c'est seulement de l'instruction qu'on fait au Niger. Ce n'est pas de l'éducation. Parce que on a réduit la morale, ce qu'on donne là, et souvent on ne traduit pas. Les enfants ne savent pas ce qu'on leur écrit là. On leur écrit le biche et puis fini. Donc là, il faut qu'on revoie et que cette morale-là continue. Quand ça finit au niveau du CE2, quand on vient au CM1, CM2, instruction civique et morale, là, il faut que les valeurs soient enseignées. Il y a très peu de valeurs qui sont enseignées dans le système éducatif nigérien. Donc là, les autorités ont cette charge-là. Autorités, elles sont de plusieurs types. Là, c'est l'État même en tant que tel. Vous avez, par exemple, les autorités municipales. Je crois bien que ici, dans la ville, l'autorité municipale a cette latitude-là de prendre des mesures d'assainissement moral de sa ville. Elle peut le faire. Et l'autorité religieuse, coutumière religieuse, comme l'autorité sultanale dont j'ai parlé, j'ai dit que c'est au nom du statut de Sarki musulman, mais il peut instaurer une police des mœurs. Il peut voir comment ils vont voir, de concert avec les services municipaux, et comment ils vont instaurer, en tout cas, des brigades de mœurs. Et pour voir, si c'est OK, vous voyez, ils peuvent rentrer dans tous ces coins et recoins pour vraiment policer les choses. Au niveau des parents, là, d'abord, il y a la question du modèle. Et il faut qu'on évite la contradiction entre le père et la mère. Et il faut également que l'éducation vraiment repose beaucoup plus sur la mère que sur le père. Ça, c'est un don de Dieu qu'il a donné à la mère, plus qu'au père. En tout cas, dans les petites années, dans les premières années, la mère doit jouer un rôle très, très, très important. Elle n'a pas besoin d'être savante. Elle a juste besoin de ne pas être trop retenante, mais d'être contenante. Et surtout d'être maintenante. Donc il faut qu'elle-même prenne ses responsabilités. Au niveau des parents toujours, c'est de voir à quel âge on va acheter ces smartphones-là à nos enfants. Ceux-là même qui nous ont envoyé ces smartphones, il y a des pays dans lesquels certains réseaux sociaux sont interdits. On peut le faire au Niger. Et donc, et pour les enfants, il est important de savoir que, avant de les donner, celles qui ne sont pas mariées, je ne vais pas en contradiction avec ce que défendent les Nahandi, mais il faut que les gens sachent que plus les filles grandissent sans se marier dans un contexte où la sexualité s'offre à tout le monde, Il faut savoir que c'est bien possible qu'on s'attende à des choses comme ça. Et donc, voir comment on peut concilier mariage et éducation quand même à un certain niveau de l'âge. Et en dehors de ça, même celles qui ne fréquentent pas, qu'on sache à qui on donne sa fille en mariage. Et il n'y a pas une solution meilleure que l'éducation continue. C'est l'éducation continue. Il faut que l'éducation soit remplie de valeurs morales. C'était ça la chance de nos sociétés au moment même où l'islam n'était pas très dominant, au moment où même l'école des Blancs n'était pas là. Nous avions une éducation remplie de valeurs morales. Et donc, ça fait en sorte qu'il y a énormément de garde-fous que l'enfant intériorise dès son bas âge. Maintenant, presque tous ces garde-fous-là ne sont pas là. Certains, comme je l'ai dit, c'est parce que c'est contraire à l'islam, mais les marabouts n'ont pas proposé.
Dernière question pour vous aussi, M. Nandi. Comment jugez-vous les résultats et quelles sont les perspectives en matière de lutte contre la dépravation des mœurs?
Okay. C'est déjà une situation qui a déjà gangréné nos sociétés. Et les services de protection, les autres acteurs, que ce soit les acteurs de la société civile, les leaders religieux, les leaders communautaires, tous vraiment sont en train d'intervenir parce que le problème est là et vraiment il est en train de diminuer la valeur de nos sociétés, nos valeurs ancestrales. Et on est en train de lutter contre ça, mais vraiment le phénomène est énorme. Les résultats vraiment ne sont pas vite satisfaisants, mais quand même avec ces approches que nous sommes en train de mener dans les différents quartiers, il y a d'autres vraiment qui commencent à donner des bons résultats. Dans certains villages, dans certains quartiers des Andes, il y a même la communauté qui s'est réunie et mettre en place une charte communautaire. Rien qu'ici dans la commune de Kolaram, il y a des villages qui ont brandi le Coran pour tout celui qui va abuser sexuellement, n'est-ce pas, d'une jeune fille. Donc vraiment, nous sommes en train de mettre des programmes de résilience au niveau de la communauté, parce que le problème de la protection, c'est d'abord la famille, c'est ensuite la communauté, les services techniques et autres donc vont venir après. Maintenant, on est en train de mettre des programmes de résilience au niveau communautaire, qu'ils comprennent d'abord le problème et qu'ils agissent eux-mêmes. C'est mieux que les sensibilisations que les services vont venir faire. Ne faites pas ceci, ne faites pas cela, c'est bon. Et vraiment, c'est une démarche qui est lente, mais on souhaite qu'on ait beaucoup plus de moyens et la collaboration de tout un chacun, comme je le disais. Vraiment, c'est un problème social. Et si la société elle-même, c'est pas tel service seulement qui est habilité à faire cette lutte. C'est de la famille de l'enfant, de la communauté de l'enfant, des établissements, des services techniques. Partout où l'enfant est, vraiment, ces personnes-là doivent rentrer dans la lutte pour essayer de trouver une solution face à ça. Il y a aussi les médias qui sont en train d'apporter leur soutien en animant des émissions, en faisant passer des spots pour vraiment lutter contre ces phénomènes. C'est vraiment une lutte globale. On est en train de voir des résultats dans certaines localités, mais quand même, beaucoup reste à faire parce que la société a été tellement gangrénée par rapport à ces phénomènes. C'est maintenant que la population vraiment a commencé à comprendre là où on va, parce qu'on a abandonné nos bonnes habitudes, nos bons comportements, pour vraiment adopter d'autres comportements avec toutes les causes possibles qui ont conduit ces enfants, qui ont conduit la société vraiment dans cette mauvaise voie. Et en termes de perspectives, vraiment c'est des programmes qui sont là, en train d'être réfléchis, les programmes que nous mettons en œuvre avec le communautaire, avec les leaders religieux, avec les services administratifs acteurs, qui est vraiment en train de donner ses résultats, mais beaucoup reste à faire.
Merci M. Nahandui. Donc nous en venons à la fin de ce forum. On note que depuis 2020, plus de 650 cas d'abus sont enregistrés et à peu près 1250 cas de comportements à risque. Selon l'islam, l'enfant est un don, un dépôt et un ornement L'éducation de l'enfant est donc un devoir. Les causes de dépravation des mœurs sont nombreuses. On peut citer l'exposition des organes sexuels, le non-contrôle des terminologies, les films, les images sexuelles diffusées dans ces films-là, l'absence de l'éducation parentale. Du point de vue islamique, la principale cause, c'est donc la démission des parents. Il y a aussi la rivalité entre ces derniers qui dévancent deux fois les enfants, le manque de punition et ou de récompense. La pauvreté est aussi un pivot par rapport au manque d'éducation des enfants. Plusieurs catégories de filles sont concernées par le problème de dépravation des mœurs. La politique nationale en matière de protection de l'enfant est mise en œuvre par les services techniques pour stopper le phénomène qui comporte plusieurs conséquences. Pour solution, il faut donc mettre l'accent sur l'éducation familiale, mais aussi aller vers une réforme du curricula au niveau de l'école et des Makaranta. Nous étions donc avec Dr Abdelwahab Soumana, socio-anthropologue, enseignant-chercheur à l'université André Salifou de Zander, Dr Sani Abdelmajid, inspecteur pédagogique régional, prédicateur, et M. Nahandi Oumarou, chef du service protection de l'enfant à la direction régionale de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant. Merci et au revoir.